leader de la révolution islamique a dénoncé la sournoise rhétorique médiatique occidentale qui cherche à inculquer à l'Iran et aux alliés de l'Iran, au sein de l'axe de la résistance, l'image des partis qui refusent les offres de paix et qui cherchent à faire la guerre. Le président iranien exige que les autres parties de l'accord nucléaire respectent, tout comme l'Iran, leurs engagements envers cet accord. Et en Syrie, les forces armées turques ont évacué 3 postes à l'ouest d'Alep. C'était les principaux titres, en voici le journal. Ce 11 mars, les musulmans du monde entier célèbrent l'avènement à la mission prophétique du grand messager de l'islam, événement à l'occasion duquel le leader de la révolution islamique a prononcé un important discours. Le discours intervient sur fond du refus des États-Unis de réintégrer comme il se doit l'accord de Vienne en décrétant une levée en bloc des sanctions contre l'Iran. Dans une partie de son discours, le leader de la révolution islamique a dénoncé cette sournoise rhétorique médiatique occidentale qui cherche à inculquer à l'Iran et aux alliés de l'Iran, au sein de l'axe de la résistance, l'image des partis qui refusent les offres de paix et qui cherchent à faire la guerre. C'est faux de dire que la République islamique d'Iran veut la guerre partout. Non et non. L'Iran n'a aucun problème avec les États-Unis et partis qui ne cherchent pas à l'affronter. Le Coran, livre saint auquel nous nous référons, a bien défini l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas celui qui a une religion différente, une conviction différente, mais bien celui qui vous refuse vos droits fondamentaux. Le Coran recommande à tout musulman de se défendre, de s'armer pour faire peur aux ennemis. Aux ennemis et aux ennemis seuls. Des ennemis actifs, genre ceux auxquels nous avons fait face tout au début de notre révolution. L'Iran a été bien tolérant, mais les ennemis n'ont pas tardé à comploter et l'Amérique plus que les autres. Or, pour faire face à ces ennemis, il nous faut deux éléments, tous deux importants, le discernement et la patience, qui nous immuniseraient définitivement en tout lieu et situation. Le discernement revient à être subtil et à savoir faire le meilleur et le bon choix. Quant à la patience, elle veut dire la persévérance dans la voie qu'on s'est fixée et choisie. Nous vous présenterons la suite de ce discours du guide suprême de la révolution islamique après le journal. Le président iranien Hassan Rouhani s'est entretenu mercredi 10 mars au téléphone avec le premier ministre britannique Boris Johnson. Le président iranien a souligné que la politique de Téhéran consistait à prendre des mesures pratiques face aux mesures pratiques d'autres partis et il a ajouté que le comportement des Européens qui n'ont pas respecté leur part de marché a suscité la méfiance des Iraniens. Le président Rouhani a déclaré « La politique de Trump a porté préjudice à la coopération internationale et malheureusement, le Conseil de sécurité de l'ONU n'y a pas réagi convenablement. Le temps est donc arrivé pour que nous coopérions tous pour résoudre ce problème. » Hassan Rouhani a affirmé que l'administration Biden a annoncé son désir de revenir à l'accord nucléaire de 2015, sans prendre toutefois des mesures pratiques dans ce sens. Selon Rouhani, la décision de la Grande-Bretagne et de deux autres signataires européens de l'accord nucléaire de retirer la résolution contre l'Iran auprès du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, était une décision appropriée pour ne pas compliquer davantage la situation. L'Iran ne peut pas être la seule partie à payer l'addition de l'accord nucléaire, a souligné le président iranien en exigeant que les autres parties de l'accord respectent aussi leurs engagements respectifs. Lors de cette conversation téléphonique, le président Rouhani a critiqué Londres pour ne pas avoir débloqué des sommes dues à Téhéran au sujet des contrats d'armement d'il y a 40 ans. Il a estimé que le paiement de ces sommes par Londres pourrait faciliter la résolution d'autres différends entre Téhéran et Londres. Quant à la position de l'Iran au niveau régional, le président Rouhani a déclaré que l'Iran avait un rôle et une influence indéniable dans le règlement des crises au Moyen-Orient. Il a affirmé que Téhéran s'opposait à l'intervention des puissances étrangères en Irak et demandé que les États-Unis acceptent la responsabilité de leurs erreurs en Irak et dans toute la région. Le président Rouhani a évoqué ensuite la poursuite de la crise humanitaire au Yémen, où le conflit actuel n'aurait jamais une solution militaire. Il a exprimé ses regrets de l'inaction de l'ONU et des organisations internationales devant la crise humanitaire yéménite. Au cours de cette conversation téléphonique, le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait part de l'intérêt que Londres portait à la relance de l'accord nucléaire de 2015. Il a ajouté que toutes les parties devraient respecter leurs engagements et prouver leur bonne volonté dans ce sens. Le Premier ministre britannique a insisté aussi sur le rôle que l'Iran pourrait jouer pour renforcer la paix et la stabilité dans la région. En Syrie, les forces armées turques ont évacué 3 postes à l'ouest d'Alep. Ces 3 postes, situés dans les villes de Batabo, Kafnassi et entre les villages de Zardana et Ibin, avaient été implantés l'année dernière pour aider les terroristes pro-turcs à repousser une attaque à grande échelle de l'armée syrienne et de ses alliés. Un dirigeant du Front national de libération, principal mandataire de la Turquie à Idlib, a déclaré à Enab Baladi que les 3 postes avaient été évacués dans le cadre d'un plan de redéploiement des troupes turques dans la région. Selon lui, les petits postes seront fusionnés avec des bases plus grandes. Ce que les Turcs planifient et visent exactement n'est pas encore connu, a déclaré le chef, dont le nom n'a pas été révélé aux médias pro-opposition. Au cours des derniers mois de 2020, les forces turques ont évacué un certain nombre de postes qui étaient tous situés dans la région d'Idlib, étant sous le contrôle du gouvernement syrien. Le redéploiement turc en cours à Idlib ne se limitera probablement pas à l'ouest d'Alep. Au cours des 3 dernières années, les forces turques ont établi plus de 60 postes dans la région. Le plan de redéploiement vise probablement à améliorer la sécurité des forces turques à Idlib. Les troupes turques ont été attaquées à plusieurs reprises au cours des 2 derniers mois. Le ministre russe de la Défense a annoncé que les réseaux terroristes qui se déploient dans la zone de désescalade à Idlib avaient mené pendant les dernières heures 45 attaques contre les zones et les villages sûrs dans les banlieues de Hama, Alep, Latakia et la zone libérée de la banlieue d'Idlib. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a réaffirmé la nécessité de parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie qui respecte sa souveraineté et son intégrité territoriale. La crise en Arménie ne sera réglée que par la démission de Nikol Pachinian, a déclaré Onik Gasparian, dont le limogeage a été récemment ordonné par le Premier ministre arménien. Ce mercredi 10 mars, le gouvernement arménien a publié un communiqué pour annoncer que la révocation de Onik Gasparian, le chef d'état-major de l'armée arménienne accusé de tentative de putsch contre le Premier ministre Nikol Pachinian, est désormais effectif. Quelques heures plus tard, Onik Gasparian a émis de son côté un communiqué pour qualifier ce limogeage de contraire à la Constitution. Il a également réclamé la démission du Premier ministre et l'organisation des élections parlementaires prématurées. Onik Gasparian a déclaré que la crise pesant actuellement sur l'Arménie ne serait réglée que par le retrait du Premier ministre. Il a fait part de sa décision de saisir le tribunal administratif en raison des déclarations contraires à la Constitution de Nikol Pachinian à propos de son limogeage. Le 25 février, Onik Gasparian et un groupe de commandants-chefs de l'armée arménienne ont rendu public un communiqué pour réclamer la démission de Nikol Pachinian. Face aux pressions des militaires, Nikol Pachinian a dénoncé une tentative de coup d'État et réclamé à son tour, fin février, le limogeage du chef de l'armée via un décret qui doit être signé par le président de la République, Armen Sarkissian. Ce dernier a cependant refusé par 2 fois de signer ce décret. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du texte intégral du discours du guide suprême de la révolution islamique prononcé à l'occasion de l'avènement à la mission prophétique du grand messager de l'islam. L'ultimatum du leader aux États-Unis. Ce 11 mars, les musulmans du monde entier célèbrent l'avènement à la mission prophétique du grand messager de l'islam, événement à l'occasion duquel le leader de la révolution islamique a prononcé un important discours. Le discours intervient sur fond du refus des États-Unis de réintégrer comme il se doit l'accord de Vienne en décrétant une levée en bloc des sanctions contre l'Iran. Dans une partie de son discours, le leader de la révolution islamique a dénoncé cette sournoise rhétorique médiatique occidentale qui cherche à inculquer à l'Iran et aux alliés de l'Iran, au sein de l'axe de la résistance, l'image des partis qui refusent les offres de paix et qui cherchent à faire la guerre. C'est faux de dire que la République islamique d'Iran veut la guerre partout. Non et non. L'Iran n'a aucun problème avec les États-Unis et partis qui ne cherchent pas à l'affronter. Le Coran, livre saint auquel nous nous référons, a bien défini l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas celui qui a une religion différente, une conviction différente, mais bien celui qui vous refuse vos droits fondamentaux. Le Coran recommande à tout musulman de se défendre, de s'armer pour faire peur aux ennemis. Aux ennemis et aux ennemis seuls. Des ennemis actifs, genre ceux auxquels nous avons fait face tout au début de notre révolution. L'Iran a été bien tolérant, mais les ennemis n'ont pas tardé à comploter et l'Amérique plus que les autres. Or, pour faire face à ces ennemis, il nous faut deux éléments, tous deux importants, le discernement et la patience, qui nous immuniseraient définitivement en tout lieu et situation. Le discernement revient à être subtil et à savoir faire le meilleur et le bon choix. Quant à la patience, elle veut dire la persévérance dans la voie qu'on s'est fixée et choisie. Plus loin dans ses propos, le leader de la révolution islamique a souligné « Ces deux éléments, toute société qui en fait une raison, saura préserver son unité loin des agissements incessants des ennemis. Les membres d'une telle société se conseilleront, s'entraideront et s'appuieront mutuellement et la chaîne sociale ne rompra jamais. » Eh bien, c'est justement cette continuité, cette cohésion, ce couple patience, discernement, qui est la cible de la guerre et soft de l'ennemi. Et puis, ce soft war a aussi un aspect cognitif qui défigure la réalité, qui la fait voir à l'inverse de ce qu'elle est. Et si l'ennemi parvient à couper cette chaîne d'entraide, d'appui mutuel, il aura alors toutes les chances du monde de gagner la bataille puisqu'il pourra venir à bout de notre détermination, de notre volonté. Plus loin, le leader a dénoncé la défiguration systématique de la vérité et ses mensonges que les Américains et leurs alliés profèrent sans honte et avec un courage révoltant. Tenez le cas d'un pays comme le Yémen, dont le peuple est bombardé à la maison, à l'hôpital, à l'école, par un allié des Américains, Arabie Saoudite, un peuple soumis au blocus, privé de vivres et de médicaments, et tout ceci avec le feu vert des États-Unis et à l'heure même que les démocrates étaient au pouvoir. Cette férocité anti-yéménite est certes l'œuvre d'un État arabe, mais les États-Unis y apportent leur bénédiction. De l'autre côté, il y a ce peuple, intelligent et talentueux, qui a su se défendre en créant des armes ou en s'en procurant. Un peuple qui riposte désormais aux plus de 6 ans de bombardement. Et l'Amérique l'accuse de terrorisme. Pire, l'ONU en fait autant. Voilà un exemple parfaitement clair de l'imposture qui régit le camp d'en face, son langage, sa politique, son comportement. Les États-Unis possèdent, eux, l'un des plus grands arsenaux du monde, qui a été même utilisé. L'Amérique est de loin le seul pays au monde à avoir usé de la bombe atomique. Et c'est cette même Amérique qui crie à la non-prolifération et prétend être contre les ADM. Une Amérique qui a tué en un seul jour 220 000 personnes en usant de la bombe atomique. C'est cette Amérique qui a créé Daesh et qui l'a même reconnu. Et l'aveu est venu aussi bien des démocrates que des républicains. Un Daesh qu'elle arme et finance et dont elle se sert pour planter des bases militaires pour détourner le pétrole de la Syrie et l'Amérique fait tout ceci sous prétexte de lutte anti-Daesh. Quant à l'Iran et sa politique régionale, cette même Amérique ne cesse de la dénoncer avec colère et rancune, alors même que l'Iran n'a aucune présence militaire où que ce soit. Et encore, là où cette présence existe, elle ne dépasse guère le stade de conseil militaire. Y a-t-il des chars, des avions de combat iraniens quelque part? Cette présence est souvent politique. Et pas plus, et pourtant l'Amérique nous accuse de déstabiliser le Moyen-Orient. Alors que l'Iran ne s'engage jamais nulle part, à moins que l'État légal le lui demande. Bien au contraire des Américains qui occupent les pays entiers, quitte à y former des bases militaires. Et tout ceci sur le dos des gouvernements légitimes. Quant à l'Irak, c'est la même chose. Les Américains devront le quitter car c'est la loi irakienne qui le demande. Et ce sont les Irakiens qui le veulent. Idem pour la Syrie, d'où les États-Unis devront se retirer, a souligné le leader de la révolution islamique.